Vous écoutez
RMC.
Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle nuit de l'after, ici en direct de notre studio américain, en direct de New York. Nous sommes là en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'after également, jusqu'à 6h du matin. L'after, première radio de France, le soir avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Et bonsoir les amis.
Kevin Diaz est là également, salut Kevin.
Salut à tous.
Vous avez suivi avec frénésie le rugby, bien sûr, Toulouse champion de France, mais aussi les deux matchs de Coupe du Monde en cours. C'est l'événement ce soir, ces deux matchs. On va aller sur place dans quelques secondes.
Foot, hein, on est quand même là pour ça. Hein.
Oui, on va pas mentir, on n'a pas regardé le rugby.
Voilà, ça vous plaît.
Je regarde.
À part savoir que Toulouse a mis une tarte à Montpellier.
Ouais. À part que Toulouse a gagné son 7e titre en 2 ans.
Bah, ils sont sur une belle série là.
Je crois qu'ils sont forts en fait en rugby, Toulouse.
Ouais.
D'avoir un truc comme ça.
Alors, on n'oubliera pas l'actu de l'équipe de France dans l'heure qui vient. On parlera du crépuscule de Marcelo Bielsa, des blessés de l'Espagne. Il y a pas mal d'actu Coupe du Monde à passer en revue, bien sûr. Le 32-16 est ouvert. On vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After 06-12-424-424. Il y a 6 matchs aujourd'hui ici à la Coupe du Monde. Il y en a 2 qui sont en cours. On va aller dans quelques instants au stade. On va aller au stade de New York, juste derrière notre studio. Pour Panama-Angleterre, il y a 0-0. On va aller également suivre le match Croatie Ghana, il y a 1-0 pour les Croates, on est quasiment à la mi-temps face au Ghana. Et puis cette nuit, République démocratique du Congo, Ouzbékistan et Colombie, Portugal. Ce sera à 2h30 du matin tout à l'heure. Et puis à 1h30 du matin tout à l'heure. Et puis les deux derniers matchs de la nuit, ce sera Jordanie, Argentine et Algérie, Autriche. Autant dire qu'il y a du lourd. Donc cette nuit pour enfin, à suivre sur RMC dans les nuits de l'after. On y va tout de suite parce qu'il y a un truc qui se passe important là, c'est que bah, la Croatie avec son but est désormais premier de la poule. Si l'Angleterre n'arrive pas à battre le Panama, les Anglais se retrouveraient à jouer le Portugal en 16e et potentiellement le vainqueur jouerait l'Espagne. Donc voilà, le match est loin d'être fini, hein.
Alors que tu en parles alors qu'on approche de la mi-temps, je vais te dire, c'est normal que tu en parles, que je réagisse. J'ai pas trop envie. Je n'arrive pas à imaginer une seule seconde que l'Angleterre ne batte pas le Panama. Mais ce que j'ai vu de la première période, personnellement, ne me réjouit guère. Je trouve ces Anglais pas très bons collectivement. Je vois peu Harry Kane. Je suis pas 100% convaincu par Bellingham plus bas sur le terrain, même si je sais qu'il peut le faire. Mais bon, alors Declan Rice n'étant pas là et étant selon moi un joueur essentiel de cette équipe, c'est Bellingham qui a reculé. Mais je veux dire, là on parle de Angleterre-Panama, donc moi savoir où joue Bellingham, où est Declan Rice, ce que fait Harry Kane, moi je m'attendais à dire ah, Saka et Rashford, c'est les joueurs de côté qu'on attendait pour l'Angleterre, c'est eux qui vont réveiller le jeu. Et très honnêtement, j'aurais imaginé un 2-3-0 à la pause, et là je vois un 0-0.
Ouais, Aurélien,
très poussif.
Allons au stade.
Je suis très déçu, mais très déçu.
Il y a un coup franc, Aurélien tire ça pour les Anglais.
27-28 mètres, plein axe. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Kevin. 0-0. Alors effectivement, globalement, les Anglais, ils sont nuls, à minima, ils sont mous, ils ont pas envie et ils ont rien fait pour l'instant contre les Panaméens. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Là, on est à 28 mètres. Marcus Rashford, le coup franc. Ça passe au-dessus du mur, à côté, allez, à 10 cm du poteau gauche d'Orlando Mosquera. C'est peut-être Rashford le plus dangereux, mais bon, c'est toujours à côté. Et effectivement, comme tu le disais très bien, Gilbert, 0-0 contre le Panama, ça veut dire deuxième et ça veut dire Colombie ou Portugal en 16e de finale. Donc, c'est vraiment pas l'idéal.
Exactement, l'autre match c'est Croatie-Ghana. Clément Brossard suit le match, salut Clément.
Salut Gilbert, salut tout le monde. Il reste une minute dans le temps additionnel. 3 minutes étaient annoncées, 1-0 donc pour la Croatie. C'est largement mérité. Le Ghana qui est sur un petit peu la même combinaison que face aux Anglais, à savoir jouer assez bas, essayer de colmater la moindre brèche. Ils se sont montrés dangereux quand même sur une frappe de Semenyo en réaction qui est passée pas loin du poteau de Livakovic. Mais le but est très beau aussi, croate, alors qu'il y a un centre qui passera devant tout le monde. C'est une frappe de Petar Susic à la 31e. Il est à 25 mètres environ. Il arme du droit, ça passe entre les jambes d'un défenseur ghanéen et Benjamin Azaré, le portier qui joue à Accra en club, était un petit peu masqué, il n'arrive pas à se détendre sur sa droite. Et donc ces petits filets, c'est imparable. Et la Croatie qui, grâce à ce but, eh bien, occupe donc la première place de ce groupe-là. Bon, après, ça offre pas un adversaire.
Quand tu vois en plus que facile, c'est quand même une Croatie qui est en bout de piste. Si elle termine première de ce groupe-là, la qualité du groupe pourrait être remise en cause. Quant au Ghana,
la Croatie qui pourrait jouer le Sénégal. Si ouais,
quant au Ghana, je mets cette équipe dans mon top 3, allez, si je suis généreux, top 5 de la médiocrité dans cette Coupe du Monde.
Ils n'avaient pas encaissé de but jusqu'ici, mais c'est sûr que le match contre le Panama, notamment Daniel.
Aucune intention de jeu et des catcheurs.
Le match contre le Panama, c'est
vraiment pas beau.
À la 95e, ça s'était décanté sur le but ghanéen, mais c'est pour moi l'un des pires matchs de cette Coupe du Monde, le Ghana-Panama.
Ah ouais, non, mais le Ghana, ça joue pas au ballon. Dans le jeu, il n'y a pas d'ambition. Pour jouer au foot. Hein.
Ouais, c'est vrai. C'est la mi-temps à l'instant, 1-0 donc pour la Croatie, le but du souci.
T'as l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que t'as encore comme équipe qui était bien naze?
La Nouvelle-Zélande,
ils ont réussi à faire un truc.
Je vais te dire, l'Arabie Saoudite, dans les intentions, il y a peut-être un. Ouais, Tunisie, ils sont pas venus pour jouer à la Coupe du Monde, ils étaient ailleurs. Mais Arabie Saoudite, dans le rapport au ballon, c'est peut-être au-dessus du Qatar. Là, au Qatar, le ballon, il ressort, elle est des bosses. Non, c'est vraiment terrible.
Sur la chaîne YouTube de l'Actu, Daniel a trouvé un petit ballon avec le logo de l'Italie.
On me l'a offert. J'en sais rien.
Il y a encore des trucs avec des logos de l'Italie à la commune.
J'en sais rien. On m'a offert ça, je suis arrivé, j'ai vu qui était là.
Ça doit être gratuit. Voilà. C'est la mi-temps entre l'Angleterre et
le ballon du Sam. C'est le ballon du Sam.
Ah, c'est ça.
C'est du vintage, ouais. 0-0, ben voilà. Il ne s'est rien passé à part une demi-frappe de Rashford dans l'entrée de la surface de réparation. Le coup franc, j'étais content de venir voir l'Angleterre face au Panama. Ils ont mis 6-1 en 2018. Il y avait Harry Kane, tout le monde devait s'amuser. À l'arrivée, il flotte. On a les petits ponchos. Et en plus, l'Angleterre est nulle. Pour l'instant, il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux en seconde période. Surtout après le 0-0 contre le Ghana, où malgré 80% de possession, tu n'as rien fait. Et la pression des médias anglais va s'intensifier.
Contre le Ghana, c'est un peu le même scénario de match, mais contre le Ghana, l'Angleterre, je les ai pas trouvés complètement mauvais, en tout cas bien meilleurs que ce qu'ils sont en train de fournir comme prestation là. Il y avait des occasions, il se passait des choses. Là, je trouve que c'est pauvre même dans la relation entre les hommes.
Ah ouais. Par contre, tout à l'heure, tu as dit en préambule qu'ils étaient pas bons, certes. Maintenant qu'il n'est pas envie, je suis pas du tout d'accord. C'est pas une histoire d'envie qui est difficile de mettre du rythme face à une équipe qui est en bloc bas, qui est en bloc médian, qui veut pas vraiment sortir à part sur 2-3 trucs, mais un joueur de football de haut niveau qui peut se qualifier pour un 16e de finale, il a toujours envie.
C'est la mi-temps également entre la Croatie et le Ghana, Clément.
Oui, 1-0 pour les Croates, donc le but de Susic, une seule petite frappe, pas cadrée mais intéressante, de Semenyo pour les Ghanéens qui, on l'a dit, proposent pas grand chose dans le jeu. La Croatie se contente de gérer, et Luka Modric, donc titulaire, c'est la 20e fois qu'il démarre un match de Coupe du Monde. C'est un record pour
lui. Il se repose jamais.
Exactement.
Tu vois qu'il y a une tonne de sélections qui ont fait reposer les stars, notamment dans le troisième match. Alors certes, là, il y avait quand même des points à prendre.
Ils sont pas qualifiés.
Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
S'ils étaient qualifiés, ils se seraient reposés.
Non, mais 201e sélection, c'est peut-être son dernier match de Coupe du Monde si jamais la Croatie venait à s'incliner. Mais pour l'instant, ils sont sur le chemin de la qualification. Les Vatreni.
À tout à l'heure. Fabrice Hawkins est là. Il suit l'équipe de France, bien sûr, avec son crew, comme on dit ici aux États-Unis. Salut Fabrice.
Salut Gilbert, salut à tous.
On fait évidemment le point quotidien avec toi sur ce qui se passe en équipe de France.
Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, Fabrice?
Retour du sélectionneur déjà.
Eh oui, retour du sélectionneur Didier Deschamps qui est face à moi sur la pelouse d'entraînement, cette pelouse de l'université de Bentley ici à Boston. Didier Deschamps qui est revenu, on l'a senti vraiment très proche de ses joueurs. Il y a une scène, je pense, qui a marqué un petit peu tout le monde ici, c'est qu'il a vraiment pris Maxence Lacroix à part au tout début de la séance, et ils ont discuté pendant 3-4 minutes, et on le voyait bouger, gesticuler, bouger les bras, vraiment comme si presque il lui débriefait son match d'hier. Et voilà, on l'a vu aussi très proche de Malo Gusto, de Ryan Cherki, une petite tape derrière l'épaule de d'Ibrahima Konaté. Et pour vous dire un petit peu, il y a on va dire tous les remplaçants presque qui sont sortis pour cette séance d'après-match, à l'exception de Marcus Thuram et de N'Golo Kanté. Le reste des titulaires, on les a quasiment pas vus, on les a même pas vus du tout, à l'exception d'Olysée, de Lacroix, Maxence Lacroix, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et William Saliba. Lui n'était pas titulaire, mais il était avec les quatre que je viens de vous citer. Ils ont fait des petits tours de terrain. D'ailleurs, on sent qu'il y a un programme spécifique pour William Saliba, qui a continué à courir avec le préparateur physique de l'équipe de France, Cyril Moine. Et donc ensuite, il y a eu une opposition 5 contre 5 sur 30 mètres avec deux buts. Dans un but, Brice Samba, dans l'autre, Robin Rissert, bon, ce que je peux vous dire, c'est que deux, trois joueurs se sont un petit peu mis en évidence. Malo Gusto, j'ai bien aimé. Warren Zaïre-Emery également. Bradley Barcola aussi.
Oui, ce qui ne préjuge en rien de qui va jouer contre la Suède.
Non, pas du tout. Et Didier Deschamps observait tout ça, pour le coup, sans rien dire et en laissant la main à Guy Stéphane qui donnait les consignes. Et là, justement, Didier Deschamps, il est en train de donner des conseils, des consignes de placement à Ryan Cherki. Vraiment, ils sont face à face, ils discutent. Il est en train de mimer un défenseur qui fonce sur lui et il est en train de lui donner des conseils pour l'éviter. Voilà, il montre avec la main, il faut passer par la gauche et frapper. Voilà, très très proche de ses joueurs, Didier Deschamps qui est vraiment impliqué, lui qui est de retour aujourd'hui donc après les obsèques de sa maman hier en France.
Très bien, merci, merci Fabrice. Bon, je pense que d'ici demain, on commencera à avoir des éléments compo. Hein.
Après, je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise non plus. Hein. C'est-à-dire que, à part.
Mais si, on a un pari en cours avec Walid sur les deux devant la défense, quand même.
Alors
bah, Walid dit.
C'est quoi le pari
Walid dit Rabiot Tchouaméni. Et nous, on lui dit attention, on dit qu'il y aura Koné.
Ouais, je pense que Walid est plus près de la vérité. Mais c'est pas impossible de voir Manu Koné aussi, qui est très très apprécié. On l'a dit sur RMC Sport, on en a fait un papier.
Le problème, c'est qu'on
dans l'esprit
le problème,
du staff, c'est quasiment
Fabrice, titulaire. Donc en fait, tu nous dis que tout le monde peut gagner le pari.
Non, mais en fait, Fabrice, pour être précis,
Walid a quand même plus de chance.
Oui, mais en fait, on le sait. C'est juste que comme il était prêt à payer le resto pour tout le monde, on a tous misé à l'envers.
Mais il faut le faire payer un petit peu, Walid.
Voilà. Non, maintenant,
c'est plutôt du genre à payer pour dire.
Maintenant, comme tu as le bras long, si tu peux faire en sorte, si tu peux faire quelque chose pour Manu Koné, comme ça, il en mettra tout le monde. C'est un peu l'idée.
Là, tu me surestimes. Mais non, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer en quart de finale, en huitième de finale, si l'équipe de France se qualifie jusque-là. Parce qu'à mon sens, Manu Koné peut vraiment rentrer dans le 11. Il est très, 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 très apprécié, tenu en très haute estime. À chaque fois qu'il a joué, il a été performant.
On dit pour mardi la compo, pas de surprise. Mais est-ce que c'est pas justement alors qu'on va arriver dans le premier match couperet, dans ce qu'on peut estimer être le début de la vraie compétition, est-ce que les messages qui seront envoyés au moment de la compo ne seront pas des messages quasi définitifs sur les contours de l'équipe qui devrait se dessiner à 12-13 max? C'est-à-dire maintenant on estime que Koundé démarrera tout le temps et qu'il n'y aura plus de problème, mais si par exemple Lucas Digne devait jouer dans ce 16e, est-ce que ça voudrait dire c'est lui le titulaire? Et pour le reste, si on est certain que
il y a un doute à gauche,
Mbappé, Dembélé. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc on est sûr pour Olise, Mbappé, Dembélé, mais un petit peu moins pour à gauche. Donc si c'est Barcola qui démarre, est-ce que le signe n'est pas que c'est Barcola le titulaire? Même si on relativise tout ça en répétant pour la millième fois que désormais les titulaires dans une équipe, ça peut tourner, il peut y avoir des postes où on envisage que le match se partage à deux, quoi.
Alors Fabrice, tu nous entends? Ah, je crois qu'il y a une coupure.
Ah bon, d'accord.
Oui, non, je disais Bradley Barcola, pour moi, avec Désiré Doué, ils vont se tirer la bourre jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans l'esprit de Didier Deschamps, je ne pense pas qu'il y ait un titulaire. Et après, tu sais comment ça se passe, Daniel. Hein. C'est-à-dire que si Bradley Barcola il est titulaire et qu'il fait un bon match, il aura de grandes chances de jouer contre en huitième de finale s'il y a qualification. Et de la même manière, si Lucas Digne d'aventure jouait et qu'il était très performant, ça jouera en sa faveur. Mais
donc on dit quoi? Il y a 8 titulaires et il y a 3 postes où ça peut bouger?
Moi, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a 10 titulaires. Très honnêtement, je pense que Théo Hernandez il est quand même devant Digne dans l'esprit du staff. D'accord. Et qu'après à gauche ça peut changer en fonction du système, où c'est Doué Barcola, où il va changer de système et Manu Koné pourrait rentrer dans ce 11 de départ.
Merci Fabrice. On se retrouve demain pour évidemment plus d'infos compo sans doute. Bonne soirée.
À très vite.
Dans un instant, on va partir en Suède. Et oui, parce que ça y est, hein, c'est désormais certain, c'est la Suède qui jouera face à la France. Que vaut la Suède? Qu'est-ce qu'on en dit là-bas? On aura avec nous Geoffrey, qui est un auditeur fidèle de l'After, qui vit à Göteborg, et qu'on a déjà eu dans l'After plusieurs fois lors des grandes compétitions pour parler de la sélection suédoise. Et puis l'actu des Bleus continue, avec notamment ce qu'a dit Dembélé. Je ne sais pas si ça vous a échappé, les gars, mais il a quand même dit, après le match hier, il a dit qu'en fait, lui, il préférait son match contre le Sénégal. Il considère qu'il a été plus décisif contre le Sénégal.
Et contre l'Irlande du Nord aussi.
Et contre l'Irlande, exactement, en match amical. On en reparle dans quelques instants.